Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour et merci de nous écouter. Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 9 août 2018. En direct du studio 16 de La Voix de l'Amérique à Washington, Eric Manilakidza
et Anne Albertson.
Au sommaire de cette édition,
Joseph Kabila a mis fin à des mois de spéculation et ne va pas se présenter à sa réélection. Plusieurs réactions ont salué la décision du président congolais.
Nous sommes extrêmement ravis de voir que la disposition constitutionnelle selon laquelle il n'y a que deux mandats pour un président élu vient d'être réalisée.
L'accord constitutionnel du Mali a rejeté les recours de l'opposition. Le président sortant Ibeka et son rival Soumaïla Cissé s'affrontent au second tour dimanche prochain.
L'ancienne dame de fer de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, a retrouvé ce mercredi sa liberté après 7 ans en prison.
Sincèrement, je suis très ému, je suis content de l'avoir libérée. Il faut dire que le président de la République actuelle, Alassane Ouattara, a fait un grand pas. Ça nous va droit au cœur.
Au Zimbabwe, l'opposition a choisi la voie judiciaire pour contester la victoire d'Emerson Mnangagwa à la présidentielle du 29 juillet.
Ici aux États-Unis, un élu républicain de la Chambre des représentants inculpé de délits d'initié dans l'État de New York. Il s'agit de Christopher Collins, l'un des premiers soutiens de Donald Trump dans la course à la Maison-Blanche.
Et ne manque pas votre page d'espoir et l'actualité économique, mais d'abord le journal.
Les États-Unis ont salué ce mercredi le retrait du président congolais Joseph Kabila de la course à l'élection présidentielle, mais Washington estime que davantage pouvait être fait pour assurer une transition démocratique dans le pays. Nicolas Pineau a joint à Johannesburg Brian Neubert du département d'État américain.
Pour les États-Unis, c'est vraiment une bonne étape. Sûrement, ça semble être une opportunité pour une élection libre au mois de décembre, une opportunité pour la population congolaise de s'exprimer et de voter pour le gouvernement, en fait, pour la première fois dans leur histoire.
L'ONU a également salué le progrès continu vers l'organisation d'élections libres, justes et pacifiques le 23 décembre en RDC. Les adversaires de M. Kabila ont salué une victoire dans le fait que le président Kabila s'engage finalement à quitter le pouvoir. Nous y reviendrons dans la seconde partie de cette édition.
Au Mali, la Cour constitutionnelle a proclamé ce mercredi les résultats définitifs du premier tour de la présidentielle. Ibeka, le président sortant et candidat à sa propre succession, sera au second tour face à Soumaïla Cissé. Cette décision est finale. Les recours de l'opposition ont été rejetés en bloc. Les explications de Kassim Traoré à Bamako.
À travers cette proclamation, la Cour a rejeté toutes les requêtes introduites à son niveau. Les 9 sages ont procédé à des redressements avant de publier les résultats définitifs. Manassa Danyogo, président de la Cour constitutionnelle du Mali.
Électeurs inscrits 8 462, votants 3 416 218, bulletins nuls 224 069, suffrages exprimés 3 192 149, taux de participation 42.
Comme lors des résultats provisoires, il n'y a eu aucun changement avec les résultats définitifs.
1 Ibrahim Bakar Keta, 41,70%. Aliou Diallo, 8,03%. Soumaïla Cissé, 17,78%. Considérant que le candidat Ibrahim Bouakar Keïta a obtenu 1,331,132 voix et le candidat Soumaïla Cissé 567,679 voix, il y a lieu de les déclarer candidats au deuxième tour du scrutin du 12 août 2018.
Les Maliens sont encore appelés à départager Ibrahim Bouakar Keïta et Soumaïla Cissé comme lors du second tour de 2013. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
L'opposant mauritanien Biram Oulda Oula Beïd, président d'une ONG anti-esclavagiste et candidat aux législatives du 1er septembre, se trouvait en garde à vue ce mercredi soir dans un commissariat de police de Nouakchott. Interpellé mardi matin, il doit répondre d'une plainte portée contre lui par un journaliste mauritanien qui l'accuse de calomnie, d'injures et d'incitation à la haine.
Au Niger, 22 personnes sont mortes dans des inondations dues à de fortes pluies. Le ministre de l'Action humanitaire, Lawan Magadji, a indiqué que les eaux ont également détruit 3131 habitations et 3902 hectares de culture. Quelques 2000 sans-abri ont été recensés dans la capitale Niamey en début de semaine.
En Côte d'Ivoire, l'ex-première dame Simone Gbagbo est apparue souriante ce mercredi pour sa libération. Un millier de ses partisans en liesse sont venus l'accueillir à sa résidence de Cocody à Abidjan. Elle a longuement remercié Dieu puis ses partisans du Front populaire ivoirien. Madame Gbagbo n'a pu s'empêcher de lancer une courte harangue aux accents bibliques. Militants, militantes, levez-vous pour une nouvelle page. Après 7 ans de détention, elle a bénéficié d'une amnistie du président Alassane Ouattara. Elle avait été condamnée en 2015 à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État.
Au Kenya, l'explosion d'une mine artisanale a tué 5 soldats kenyans. C'était ce mercredi au passage de leur véhicule dans le comté de Lamu, dans l'est du pays, Ekiabadou.
Selon un haut responsable de la police de Lamu, les soldats étaient dans un camion léger qui a roulé sur l'engin explosif improvisé et a été gravement endommagé. Il explique que les soldats sont morts sur le coup et 6 autres ont été blessés dans cette attaque qui a eu lieu près de la forêt de Boni qui leur a servi de refuge. Les militants islamistes somaliens Chebab ont revendiqué une attaque dans la région qui a tué 11 soldats selon eux, selon le site Intelligence Group spécialisé dans la surveillance des sites internet islamistes. L'utilisation d'engins artisanaux contre les patrouilles de police et de l'armée dans les régions frontalières du nord et de l'est kényan, près de la Somalie, est relativement courante et a déjà coûté la vie à des dizaines de policiers et soldats kényans. Affiliés à Al-Qaïda, les Chebab ont juré la perte du gouvernement fédéral somalien soutenu par la communauté internationale et les 20 000 hommes de la force de l'Union africaine en Somalie.
Au Zimbabwe, l'opposition a officialisé hier sa volonté de contester devant la justice les résultats de l'élection présidentielle du 30 juillet. Le président sortant, Emmerson Mnangagwa, a été proclamé vainqueur au premier tour. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Tabani Mpofu, avocat du mouvement pour le changement démocratique, affirme que son parti va contester les résultats annoncés par la commission électorale devant la justice. Il n'a toutefois pas précisé quand le dossier va être déposé devant la Cour constitutionnelle. Toutes les preuves dont nous avons besoin sont disponibles. Il n'y aura aucun doute pour les citoyens. Il y a eu de la triche et de la fraude, a déclaré M. Mpofu, brandissant des documents. L'opposition a jusqu'à demain pour déposer son recours. La Cour aura ensuite 14 jours pour décider de la validité ou non du scrutin. Tandai Biti, figure du MDC, a été arrêté à la frontière avec la Zambie, qui avance qu'il demandait l'asile politique. Selon le journal pro-gouvernemental The Chronicle, il est recherché par la justice qui l'accuse d'incitation à la violence. Avant la proclamation des résultats par la commission électorale, M. Biti avait annoncé que Nelson Chamisa a remporté l'élection. Le 1er août, la répression des manifestations contestant les résultats officiels s'est soldée par la mort d'au moins 6 personnes. Le président Emmerson Mnangagwa, déclaré vainqueur avec 50,8% des voix contre 44,3% pour Nelson Chamisa, a souligné à plusieurs reprises que l'élection a été libre et transparente.
Yakuba Ouedraogo. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a nommé ce mercredi l'ancienne présidente du Chili, Michelle Bachelet, à la tête du Haut Commissariat aux droits de l'homme et remplace le Jordanien Zeid Raad al-Hussein, critique acerbe du président américain Donald Trump.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Une affaire de délit d'initié dans l'État de New York. Christopher Collins, un élu de la Chambre des représentants et l'un des premiers soutiens de Donald Trump dans la course à la Maison-Blanche, a été inculpé ce mercredi. Son interpellation est en lien avec une société australienne de biotechnologie. Bagassi Koura.
Après cette annonce, le chef des Républicains à la Chambre des représentants, Paul Ryan, a estimé que les accusations justifiaient une enquête rapide et approfondie de la commission d'éthique de la Chambre. Il a également indiqué que Collins ne siégerait plus à la commission de l'énergie et du commerce. Côté démocrate, la chef de file à la Chambre, Nancy Pelosi, a estimé que les charges retenues contre Chris Collins montraient la culture endémique de corruption et d'enrichissement personnel chez les Républicains à Washington aujourd'hui. Administrateur et actionnaire important, 7,8% du capital de la biotech australienne Innate Immunotherapeutics, Collins aurait révélé à son fils en juin 2017 l'échec d'un essai clinique crucial pour la société avant que la nouvelle ne devienne publique afin qu'il effectue des transactions et limite ses pertes. Le fils de Chris Collins et d'autres personnes qu'il avait mises dans la confidence auraient alors réalisé des ventes massives de titres et évité au passage une perte estimée à $768 000 selon les enquêteurs.
Les détails de Bagassi Koura. Les États-Unis ont annoncé ce mercredi leur intention d'imposer de nouvelles sanctions économiques à la Russie après avoir déterminé que Moscou était derrière l'attaque à l'agent Novichok au Royaume-Uni. Si le Congrès ne s'y oppose pas d'ici là, les sanctions entreront en vigueur le 22 août.
Le vice-ministre turc des Affaires étrangères a été reçu hier au département d'État, ici à Washington. C'est pour tenter de désamorcer la crise diplomatique entre les deux pays à la suite de l'incarcération en Turquie du pasteur américain Andrew Brunson. Il n'a fait aucune déclaration. La semaine dernière, Washington a pris des sanctions contre deux ministres turcs et Ankara a réagi avec des mesures similaires. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
Maintenant, place à la Minute Éco avec John Lyndon.
L'Italie veut soutenir les économies du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie à hauteur d'1 milliard d'euros pour lutter contre l'immigration clandestine. Rome est déterminée de mettre fin au flux de migrants arrivant sur les côtes italiennes. Le ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini, a indiqué que son pays refuserait toute aide financière de l'Union européenne pour accueillir des migrants. Depuis 2013, plus de 600 000 migrants, originaires pour la plupart d'Afrique subsaharienne, ont débarqué sur les côtes italiennes. Entre janvier et juin 2018, ils étaient 13 808 migrants, soit une baisse de plus de 84% du flux sur un an. La dette publique du Gabon s'élevait à 4 772 milliards de francs CFA à fin mars 2018. La dette extérieure représentait plus de 69%, soit 3 318 milliards de francs CFA. Le taux d'endettement public est à plus de 52% et demeure en dessous du seuil communautaire de 70%. D'ici trois ans, les projections pourraient atteindre environ 40% du PIB. La crise pétrolière qui frappe le Gabon depuis 2014 a eu des conséquences importantes sur l'économie, notamment les déficits budgétaires et les difficultés de trésorerie.
Et sans transition, nous enchaînons avec votre page des sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, on parle de la Coupe du Monde féminine de moins de 20 ans et nouvelle lourde défaite pour les Ghanéennes.
4 buts inscrits par les Néerlandaises ont scellé le sort du Ghana pour son deuxième match dans la compétition. Après cette nouvelle défaite, l'équipe est éliminée après le match nul 0-0 entre la France et la Nouvelle-Zélande hier. Autre résultat, les Brésiliennes et les Anglaises ont fait match nul 1-1. Défaite du Mexique, 2-1 face à la Corée du Nord. Le Nigeria jouera tout à l'heure face à Haïti.
Toujours dans le football, Nicolas, les transferts se poursuivent avant la fin du mercato.
Le gardien international belge Thibaut Courtois va quitter Chelsea pour le Real Madrid. Annonce hier soir des deux clubs après être parvenu à un accord qui comprend également le prêt du Croate Mateo Kovacevic aux Blues. Aucun chiffre n'a été révélé, mais selon les médias espagnols, Courtois coûtera 35 millions d'euros au triple champion d'Europe en titre. Cette transaction devrait ouvrir la voie à Chelsea à la signature du gardien Kepa Arrizabalaga de l'Atlético Bilbao pour une somme record de 80 millions d'euros. Quant à Luka Modric, il a repris hier l'entraînement avec le Real Madrid alors que des rumeurs l'envoient soit à l'Inter de Milan, soit il resterait au Real Madrid avec une revalorisation salariale substantielle. Et puis on parle de Paul Pogba qui pourrait quitter Manchester United. Selon le Daily Mail, Pogba s'est d'ores et déjà mis d'accord sur un contrat de 5 ans avec le FC Barcelone pour un salaire de 20 millions d'euros annuels, soit le double de ce qu'il touche actuellement avec Manchester United. En Espagne, Levante a officialisé l'arrivée de Rafael Duamena, auteur d'une saison aboutie du côté de Zurich, 56 matchs, 25 buts. L'attaquant ghanéen s'est engagé jusqu'en juin 2022. A noter que l'attaque de ce club espagnol aura un fort accent ouest-africain, puisque le Nigérian Simon Moses a lui aussi signé dans cette équipe.
Et on change de discipline, Nicolas, l'athlétisme kényan, malheureusement en deuil.
Et oui, Nicolas Bett, champion du monde du 400 mètres haies en 2015 à Pékin, est décédé à l'âge de 28 ans dans un accident de voiture dans l'ouest du pays. La dernière apparition publique du champion date d'il y a quelques jours lors des derniers championnats africains d'athlétisme. Au début du mois, c'était au Nigeria. Lors des championnats du monde d'athlétisme en 2015 à Pékin, Nicolas Bett était devenu le premier kényan à décrocher le titre mondial sur 400 mètres haies en établissant au passage le record national sur la distance.
Et on termine avec le tour cycliste du Rwanda, le pays des mines et une colline, Nicolas.
La 4e étape entre Musanze et Karanji a été remportée hier par l'Américain Timothy Rugg, qui s'est imposé en solitaire avec 2 minutes 10 d'avance sur le Rwandais Samuel Akiru-Wizeye et 2 minutes 24 sur Didier Munyaneza. Samuel Mugisha reste en jaune au classement général. À suivre ce jeudi, 95 km pour la 5e étape entre Karanji et Rubavu.
C'était les sports de Nicolas Pinault. Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Eric Manilakiza. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En RDC, le candidat de la majorité au pouvoir à la présidentielle du 23 décembre, Emmanuel Ramazani Shadary, a clamé ce mercredi que les Congolais ont besoin de paix, du social et de la reconstruction. Sa désignation a suscité des réactions au sein de la classe politique congolaise et dans les rues de Kinshasa. À Kinshasa, suivez le reportage de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire dans la capitale congolaise.
Nous venons de terminer l'étape de dépôt de la candidature du candidat du Fonds commun pour le Congo que je suis. C'est l'occasion ici de remercier Dieu Tout-Puissant, remercier sincèrement et surtout l'autorité morale du Fonds commun pour le Congo, son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État Joseph Kabila Kabange, un homme exceptionnel en Afrique, même à travers le monde, qui a dit qu'il n'y aura pas de troisième mandat. Aujourd'hui, il a tenu parole.
Ce sont les premiers mots d'Emmanuel Ramazani Shadary en tant que dauphin de Joseph Kabila prononcé après le dépôt de sa candidature à la présidence de la République. À 57 ans, c'est lui qui sera le porte-drapeau de la coalition au pouvoir, le Front commun pour le Congo, le 23 décembre prochain. Un choix judicieux pour un fidèle à Kabila, selon Serge Kadima, cadre du PPRD, parti présidentiel.
Emmanuel Shadary a l'avantage de connaître très bien les partis, pour avoir commencé dans ses partis comme militant d'abord, puis comme cadre. Il connaît très bien les chefs de l'État. Il a été pendant 5 ans président du groupe parlementaire PPRD au niveau de l'Assemblée nationale. Nous pouvons considérer dans une large mesure que c'était un bon choix du chef dans sa sagesse légendaire.
À l'opposition, l'on se satisfait du respect de la Constitution qui interdisait à Joseph Kabila de briguer un troisième mandat consécutif. Mais Eve Bazaïba, la secrétaire générale du mouvement de libération du Congo, estime que Ramazani Shadary ne fera pas le poids face à l'opposition.
Nous sommes extrêmement ravis de voir que la disposition constitutionnelle selon laquelle il n'y a que 2 mandats pour un président élu vient d'être réalisée. Donc la désignation d'un dauphin par M. Kabila est une victoire de la démocratie et victoire de tout le peuple congolais qui s'est battu de sorte que la constitution soit respectée. Pour le reste, nous savons que M. Shadary sera battu à plate couture par l'opposition, étant donné qu'il va assumer tous les passifs de la mauvaise gouvernance dans les chefs de la majorité présidentielle.
Jean Baudouin Maillot de l'UNC de Vital Kamerhe qualifie de son côté le choix du dauphin de Kabila comme la victoire du peuple congolais.
C'est la victoire du peuple congolais. Il a pu imposer le respect de sa constitution. Le président Kabila s'est incliné devant son propre serment. Le tout, c'est à la faveur de la démocratie dans notre pays. Pas de troisième mandat et il n'y en aura pas.
Et dans les rues de Kinshasa, autant on est divisé quant au choix de Shadary comme candidat président de la République, autant on salue unanimement le respect par Joseph Kabila de la Constitution.
Le chef de l'État a essayé de respecter la Constitution en désignant un dauphin, bien qu'en retard. Mais moi, je crois que le choix qu'ils appellent camarade de Shadary n'est pas un bon choix à mon sens, parce que c'est quelqu'un politiquement qui n'est pas vraiment routier.
La désignation de M. Ramazani Shadary comme dauphin du président Kabila est un grand pas qui crédibilise le processus électoral actuel. Bravo à M. Kabila qui a su montrer qu'il est capable de tenir parole. Pour la suite, nous souhaitons que le processus se déroule en toute transparence.
Il avait promis qu'il respecterait la Constitution, évidemment. Nous voyons qu'il a respecté.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Au Congo voisin, le gouvernement a déployé ce mercredi des membres de la commission mixte paritaire pour la paix dans le Pôle. C'est dans les sites où se déroulera le désarmement des ex-combattants ninja. Le pasteur Ntumi, qui dit ne pas être associé à ces différentes étapes, a appelé dans une déclaration la communauté internationale à s'impliquer dans ce processus. La correspondance signée Arsène Séverin à Brazzaville.
C'est un important convoi de véhicules chargés de matériel didactique et de camping qui a quitté Brazzaville mercredi en tout début d'après-midi pour les localités comme Kinkala, Kibouende, Misafu, Kinkembo dans le Pool où se déroulera le ramassage d'armes illégalement détenues par les ex-combattants ninja. Le président de la commission mixte paritaire Séraphin Ondélé a déclaré à VOA Afrique qu'il était question de s'en tenir à l'agenda des opérations défini d'accord parti avec le camp de Ntoumi. Le calendrier a été validé par le pasteur et nous l'avons envoyé au chef de l'État qu'il a ensuite distribué aux partenaires internationaux. Nous ne pouvons donc plus faire marche en arrière, a affirmé Séraphin Ondélé, souhaitant ne pas directement s'exprimer au micro. Pourtant, le camp du pasteur Ntoumi murmure la frustration. Dans une déclaration publiée mardi et dont copie est parvenue à VOA Afrique, le pasteur Ntoumi réclame sa place au cœur de cette opération. Philippe Anébibi est son représentant personnel.
Toutes les démarches que nous avons entreprises dans le sens du ramassage des armes l'ont été à travers l'implication personnelle du révérend Pasteur Ntoumi pour sa réussite. Je pense qu'il est tout à fait important et normal que le révérend rappelle sa place d'ambassadeur auprès des ex-combattants pour qu'il joue pleinement son rôle. Nous n'avons pas encore rendu compte que nous sommes informés maintenant que les équipes sont prêtes pour aller sur le terrain.
Attendez. Les autorités estiment avoir levé tous les obstacles empêchant le bon déroulement du désarmement, notamment la levée des poursuites contre le Pasteur Ntoumi et récemment le retrait des troupes militaires dans les zones où résiderait le chef rebelle. La société civile de son côté appelle les deux parties à s'accorder afin d'épargner les populations d'un énième supplice. Trésor Ndilakende de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, une ONG locale, renvoie dos à dos Ntoumi et le gouvernement.
Un accord qui consacre l'impunité n'est jamais durable. Dans un accord, il est toujours important que les deux parties dialoguent. Prenons le cas de M. Ntoumi, qui était un personnage clé dans la mise en œuvre de cet accord. Si on essaie de le contrôler, les choses ne vont pas aller. M. Ntoumi doit tout faire à ce que ce qu'ils se sont convenus dans cet accord soit respecté.
Selon le calendrier validé par chaque partie, il est prévu que le pasteur Ntoumi sorte de forêt le 10 août et rencontre le ministre de l'Intérieur un jour après. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
En Côte d'Ivoire, l'ex-première dame Simone Gbagbo est libre depuis hier. Plusieurs personnalités de l'ancien régime de Laurent Gbagbo ont été également libérées. Ces libérations sont consécutives à l'amnistie accordée lundi dernier par le président Alassane Ouattara. Notre correspondant à Abidjan, Georges Ibrahim Tunkara, revient sur l'ambiance de la libération de l'ancienne dame de fer de Côte d'Ivoire.
Libérée au terme de 7 années de détention, Simone Gbagbo a regagné sa résidence de Cocody, accueillie par une foule de militants en l'IS.
Sincèrement, je suis très ému, je suis content de l'avoir libérée. Il faut dire que le président de la République actuelle, Alassane Ouattara, a fait un grand pas. Ça nous va droit au cœur. Donc nous sommes venus manifester cette joie-là. Vive tout le monde, la Côte d'Ivoire, un pays de joie.
En réalité, en Côte d'Ivoire, ici, on sait que de part et d'autre, il y a eu des crimes. Donc, un groupe ne peut pas être en prison pendant qu'un autre groupe qui est incriminé soit libéré. C'est naturellement à juste titre que Alassane Ouattara l'a fait. Nous disons merci pour ce pas, parce que c'est ce que nous avons besoin. Nous avons besoin de rassurer la Côte d'Ivoire.
Marie-Solange Guédé, membre du comité central du Front populaire ivoirien, le FPI.
Nous faisons que rendre gloire à Dieu. Quand Dieu commence, il achève. Et nous savons que le papa même, il va venir bientôt. Il veut tout simplement dire merci à Dieu.
L'émotion était palpable sur le visage de Michel Gbagbo, fils de l'ancien président Laurent Gbagbo.
Mon sentiment, c'est normal, hein, naturel. Hein, vous le devinez vous-même. La joie, le contentement, voilà. Extrêmement content. La première nouvelle, c'est celle de la libération de Simone Gbagbo, qui en préfigure une autre, celle de la libération du président Laurent Gbagbo.
Très attendue, Simone Gbagbo s'est montrée peu bavarde. Elle a simplement remercié Abdramane Sangaré, l'une des grandes figures du FPI, ainsi que les militants pour leur mobilisation.
Au moment où on s'y attendait le moins, il dit « Simone, tu as quitté ». C'est un militant, levez-vous pour la nouvelle page. On est parti.
Outre Simone Gbagbo, plusieurs personnalités de l'ancien régime, dont les ex-ministres de la Construction Assoua Adou et de la Défense Moïse Lida Kouassi, ont bénéficié de l'amnistie accordée par le président Ouattara à quelques 800 personnes poursuivies pour des crimes liés à la crise post-électorale de 2010-2011, mais aussi pour des infractions contre la sûreté de l'État, commise après son investiture en mai 2011. Souleymane Camara Tekone, alias Soul to Soul, un proche du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a également recouvré la liberté. Georges Ibrahim Tounkara, VOA Afrique, Abidjan.
Raissa Girondin avec vous. Dans Washington Forum ce jeudi, coup de projecteur sur la Côte d'Ivoire. À 2 ans de la fin de son mandat, le président Alassane Ouattara a annoncé une amnistie en faveur d'environ 800 personnes, dont l'ancienne première dame, Simone Gbagbo. Réforme de la commission électorale, lancement d'un nouveau parti unifié, vœu de transférer le pouvoir à une nouvelle génération. Pourquoi toutes ces annonces? Quel chemin vers la réconciliation des cœurs en Côte d'Ivoire? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h en temps universel.
On va terminer avec le Sénégal, où le président Macky Sall a inauguré ce mercredi le Palais des Sports Dakar Arena. Le complexe est conçu pour accueillir jusqu'à 15 000 spectateurs et des événements tels que le basket, la boxe, la lutte et le tennis, mais aussi des activités culturelles. Cette arène ultramoderne est l'une des infrastructures phares de Diaminia Diop, présentée comme la ville nouvelle du Sénégal. Cette ville à 30 km de Dakar commence donc à prendre forme. Le projet fait toutefois l'objet de certaines critiques, comme l'a constaté l'envoyé spécial de VOA Afrique à Dakar, Jacques Aristide.
Une ville qui émerge de terre, des immeubles flambant neufs et d'autres toujours en chantier. Bienvenue à Diaminia Diop, le projet pharaonique du Sénégal, au coût de développement estimé à plus de 2 milliards de dollars. Le Sénégal, pourtant l'un des pays les plus pauvres de la planète. Logements, espaces verts, quartiers administratifs, zones industrielles, universités, centres de recherche et infrastructures sportives. L'objectif est de désengorger Dakar, la capitale qui abrite 3 des 15 millions d'habitants du pays. Sédou Sissal est le délégué général à la promotion des pôles urbains de Diaminia Diop et du Lac Rose.
C'est un projet qui est inscrit dans la dynamique du plan Sénégal émergent pour créer beaucoup plus de richesses et d'emplois dans l'agglomération de Dakar, mais c'est un projet dont les effets vont se diffuser sur l'ensemble du Sénégal. C'est un projet fondé sur des fonctionnalités économiques, l'événementiel, parce que nous avons constaté depuis quelque temps le tourisme d'affaires connaît une montée en puissance. Le président de la République envisage de faire de Dakar un hub sous-régional et même international.
Le déménagement des départements gouvernementaux a déjà démarré. La cité ministérielle a accueilli en juillet dernier son premier locataire, le ministère de l'Agriculture, Pendamba Ouad, de ce ministère.
Aujourd'hui, pour quitter chez moi et venir ici au pôle de Diaminia Diop, j'ai fait pratiquement 20 minutes. Et là, vraiment, c'est un gain de temps énorme. Et également ici, au niveau du bureau, nous avons trouvé un lieu, un cadre idéal pour le travail.
Le méga-projet n'est toutefois pas sans critique. Pour des experts, les logements sociaux qu'il inclut ne seront pas à la portée des personnes touchant le salaire minimum. Le village de Deni Maligueye est dépourvu d'infrastructures de base. Ses habitants se disent affectés par la ville nouvelle. Medoun Diop, président du conseil de quartier.
Nous, on n'est pas contents du plan Sénégal émergent, mais au moins qu'ils nous respectent. Respectez-nous, c'est quoi? C'est communiquer avec nous, c'est de nous informer. Vous venez prendre nos terres comme ça, sans dédommagement aussi, hein, sans dédommagement. Ils ont tout juste dédommagé l'agriculture, pas la terre. Parce que si on parle, on nous dit que c'est le domaine national.
En dépit de toutes les critiques, Diaminia Diop continue de prendre forme. Les deux autres phases, avec des infrastructures tout aussi ambitieuses, devront être complétées d'ici à l'an 2035. De la nouvelle ville de Diaminia Diop au Sénégal, Jacques Aristide, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette première édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console Jimmy Cook. Merci à Anne Alberton pour le suivi de l'actualité. et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction, Eric Manilakidza à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.